Lizzie présente Munich de Robert Harris. Lu par Martin Spinayer. Pour Mathilda. Nous devrions toujours garder à l'esprit que ce qui appartient aujourd'hui au passé faisait autrefois partie de l'avenir. F. W. Maitland, historien, 1850-1906. Nous aurions dû entrer en guerre en 1938. Septembre 1938 aurait été la date la plus favorable. Adolf Hitler, février 1945. Première partie. Premier jour. Chapitre 1. Le mardi 27 septembre 1938, peu avant 13h, M. Hugh Legat, des services diplomatiques de Sa Majesté, fut conduit à sa table près de l'une des hautes fenêtres du restaurant du Ritz de Londres, commanda une demi-bouteille de Dom Pérignon 1921 qu'il ne pouvait pas se permettre, replia son exemplaire du Times à la page 17 et se remit à lire pour la troisième fois le discours qu'avait prononcé la veille au soir Adolf Hitler au Sportpalast de Berlin. Le discours de Herr Hitler. Dernier avertissement à Prague. La paix ou la guerre? Legat jetait de temps en temps un regard en direction de l'entrée, à l'autre bout de la salle. Peut-être était-ce son imagination, mais il avait l'impression que les convives et même les serveurs qui allaient et venaient sur la moquette entre les sièges tapissés de vieux roses manquaient étonnamment d'entrain. Aucun rire ne se faisait entendre. Assourdi par l'épais panneau de verre, une quarantaine ou une cinquantaine d'ouvriers, dont certains étaient torse nus sous la pluie, creusaient des tranchées dans Green Park. « Que le monde sache bien, à l'heure actuelle. Ce n'est plus un Führer ou un homme qui parle, c'est le peuple allemand. Quand je m'adresse au peuple allemand, ils sont 70 millions à être unis dans ma parole. Heil. » Il l'avait écouté en direct sur la BBC. Métallique, implacable, menaçant. Tour à tour irrité et fanfaron, affreusement impressionnant. Le discours avait été ponctué par les coups que la main du Führer assénait sur le pupitre et par les acclamations des 15 000 voix de l'assistance. Le bruit semblait inhumain, surnaturel. On aurait dit qu'il émanait d'une ténébreuse rivière souterraine et se déversait par le haut-parleur. « Je suis reconnaissant envers M. Chamberlain pour ses efforts. Je lui ai assuré que le peuple allemand veut la paix. Je lui ai donné l'assurance, et je le répète, que lorsque le problème Sudète sera résolu, il n'y aura pas d'autres problèmes territoriaux en Europe. » Legat sortit son stylo à plume et souligna le passage. Puis il fit de même avec une autre référence antérieure à l'accord naval anglo-germanique. Un tel accord n'est moralement justifié que si les deux peuples se promettent de ne pas faire la guerre l'un contre l'autre. L'Allemagne est animée de cette volonté. Nous espérons que triompheront en Angleterre ceux qui sont animés des mêmes sentiments. » Il reposa le journal et consulta sa montre de gousset. C'était typique de sa part de ne pas arborer l'heure à son poignet, mais au bout d'une chaîne, contrairement à la plupart des hommes de sa génération. Il n'avait que 28 ans, mais paraissait plus âgé avec son visage pâle, son attitude sérieuse et son complet sombre. Il avait réservé 15 jours plus tôt, avant que la crise n'éclate. Et maintenant, il se sentait coupable. Il lui accordait encore 5 minutes, ensuite il devrait partir. Il était 1h15 quand il aperçut son reflet entre les fleurs, dans le mur de miroir doré. Elle se tenait à l'entrée du restaurant, pratiquement sur la pointe des pieds. Elle scrutait la salle d'un regard inexpressif, son long cou blanc tendu, le menton redressé. Il l'examina encore un instant, comme s'il ne la connaissait pas, et se demanda ce qu'il penserait d'elle si elle n'était pas son épouse. On disait généralement d'elle qu'elle avait une allure folle. Pas vraiment jolie, non, mais une belle femme. Pamela a ce qu'on appelle de la classe. Oui, une distinction incroyable. Elle ne joue pas dans la même cour que ce pauvre Hugh. Il avait surpris cette dernière réplique lors de la fête donnée pour leurs fiançailles. Il tendit la main, se leva, et elle finit enfin par le repérer. Elle sourit, lui adressa un petit salut et s'avança vers lui, se frayant avec assurance un passage entre les tables en laissant derrière elle un sillage de tête tournée. Légèrement essoufflée, elle l'embrassa fermement sur les lèvres.
« Pardon, pardon, pardon.
Ce n'est pas grave, je viens d'arriver. » Au cours de ces derniers 12 mois, il avait appris à ne pas lui demander d'où elle venait. Outre son sac à main, elle portait une petite boîte en carton. Elle la posa devant lui sur la table et retira ses gants. « Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Plus de cadeaux. » Il souleva le couvercle. Un crâne de caoutchouc noir, un museau métallique et les orbites vides et luisantes d'un masque à gaz le contemplèrent. Il eut un mouvement de recul.
« J'ai emmené les enfants les essayer. Apparemment, je suis censé leur mettre les leurs d'abord. Ce sera un bon test de dévouement maternel, tu ne trouves pas ?»
Elle alluma une cigarette. « Je pourrais boire quelque chose, je meurs de soif. » Il fit signe au garçon.
« Une demi-bouteille seulement ?»«
Je dois travailler cet après-midi. »
« Évidemment, je n'étais même pas sûr que tu puisses te libérer. »
« Je ne devrais pas être là en vérité, mais j'ai essayé de t'appeler, tu n'étais pas à la maison. »
« Eh bien, tu sais où j'étais maintenant. »
Une explication des plus innocentes. Elle sourit et se pencha vers lui. Ils trinquèrent.
« Bon anniversaire, chérie. »
Dans le parc, les ouvriers maniaient la pioche. Elle commanda rapidement, sans même consulter le menu. Pas d'entrée. Filet de sole, salade verte. Le gars rendit son menu et annonça qu'il prendrait la même chose. Il ne parvenait pas à penser au déjeuner, ne pouvait détacher son esprit de la vision de ses enfants portant un masque à gaz. John avait 3 ans, Diana 2. Après toutes les recommandations dont on les abreuvait, ne pas courir trop vite, bien se couvrir, ne pas porter les jouets ou les crayons à la bouche parce qu'on ne savait jamais d'où ils sortaient. Il déposa la boîte sous la table et la poussa hors de vue avec son pied. Ils avaient très peur ?
Bien sûr que non, ils ont pris tout ça pour un jeu.
Sais-tu que c'est exactement l'impression que j'ai parfois, même quand on voit les télégrammes, on a du mal à croire que tout ça n'est pas qu'une horrible plaisanterie. Il y a une semaine, tout paraissait réglé, et puis Hitler a changé d'avis.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Qui peut le dire ? Peut-être rien, dit-il, sentant qu'il devait faire preuve d'un minimum d'optimisme. Ils sont encore en pourparlers à Berlin. Ou du moins, ils l'étaient quand j'ai quitté le bureau.
Et s'ils arrêtent les discussions, ça commencera quand ?
Il lui montra le titre du Times et elle haussa les épaules. Demain, j'imagine.
Vraiment ? Si vite ?
Il a menacé de franchir la frontière tchèque samedi. D'après nos experts militaires, il lui faudra 3 jours pour mettre ses tanks et son artillerie en position. Ce qui signifie qu'il devra lancer la mobilisation demain. Il reposa violemment le journal sur la table et but un peu de champagne. Il lui trouva un goût acide.
« Allez, dit-il, changeons de sujet. »
De la poche de sa veste, il sortit un petit écrin.
« Oh, Hugh !»«
Elle sera trop grande, la prévint-il.
« Oh, mais elle est ravissante !»
Elle glissa la bague à son doigt, leva la main et la remua à la lumière des lustres pour faire luire la pierre bleue.
« Comment tu as fait ? Je croyais que nous n'avions plus d'argent. »
« On n'en a plus, c'était celle de ma mère. » Il avait craint qu'elle le juge minable, mais à sa surprise, elle tendit la main par-dessus la table et la posa sur la sienne.
« C'est adorable. »
Elle avait la peau fraîche et lui caressa le poignet de son index fuselé. « Je voudrais qu'on puisse prendre une chambre et passer l'après-midi au lit, » dit-il à brûle-pourpoint. « Oubliez Hitler, oubliez les enfants. »
« Eh bien, pourquoi n'essayes-tu pas d'arranger ça ? On est ici ? Qu'est-ce qui nous en empêche ?»
Elle soutint son regard de ses grands yeux gris-bleus, et il comprit avec une soudaine acuité qui lui serra la gorge qu'elle ne disait ces mots que parce qu'elle savait que cela n'arriverait jamais.